Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Vous écoutez le service protestant sur France Culture. En ce dimanche matin, je reçois Georges Michel, pasteur de l'UAPM, l'Union d'Assemblées Protestantes en Mission. Le pasteur Georges Michel est le secrétaire général de la FPF, la Fédération Protestante de France. Je vous propose aujourd'hui un dialogue avec le pasteur Georges Michel, une conversation axée autour de l'amitié dans la Bible. L'amitié, c'est un vaste sujet, un sujet dense et complexe, une quête permanente dans la vie de chacun d'entre nous. C'est un sujet qui occupe une place centrale dans la Bible. Les philosophes grecs se sont interrogés sur l'amitié. Les sagesses de toutes les civilisations s'y sont intéressées. Elles ont tenté de percer les mystères de l'amitié. Elles sont parties à la découverte de la beauté de l'amitié. Ces civilisations ont essayé de définir les limites de l'amitié. Que dire de l'amitié? Des définitions à l'infini, multiples et diverses, chacune plus vraie les unes que les autres. L'amitié est un feu qui éclaire l'esprit et qui réchauffe sans jamais brûler. L'amitié ne connaît ni feinte ni déguisement. Tout y est sincère, tout part du cœur. Le nom d'ami est assez commun, mais l'amitié fidèle est bien rare. Ce matin, le pasteur Georges Michel nous emmène sur les chemins de l'amitié. Bonjour Georges Michel.
Bonjour Olivier.
Comment définissez-vous la notion d'amitié?
Eh bien, en un mot peut-être, c'est de définir l'amitié comme une relation d'intimité avec soi et avec une tierce personne. Un peu comme la relation qu'il devrait y avoir dans un couple, mais dépourvue de la sexualité. J'ai commencé dans ma définition par soi, dans le sens de soi-même. Car nous savons, par les textes bibliques, et particulièrement dans la Genèse, que Dieu et Adam, le premier homme, étaient amis. Dieu aimait le soir venu visiter son ami Adam. Mais, et nous le savons, la conséquence de la désobéissance originelle occasionne une rupture dans la relation. C'est ce que j'appelle la triple rupture.
C'est-à-dire ?
La rupture de l'homme avec lui-même. Adam ne s'accepte plus tel qu'il est, et il va mettre un masque pour se cacher, persona, du mot latin. Il va s'habiller, nous dit le texte. Rupture de l'homme avec l'autre, en l'occurrence là, avec la femme, avec Ève. Et ça va être la première accusation qui rentre dans l'histoire de l'humanité, puisque Adam dira à Dieu, « C'est pas ma faute, c'est la faute de la femme que tu as mise à mes côtés. » C'est la première accusation, c'est la perte de l'amitié. Et enfin, rupture avec Dieu, puisque malheureusement, le texte nous dit que Dieu les chassa du jardin. Et c'est une rupture avec le divin. Cette triple rupture nous parle de ce vide qui habite toute l'humanité, encerclé par le néant de la mort et les futilités de la vie.
Mais est-ce qu'on peut rattraper cette perte de confiance et cette perte d'amitié?
Eh bien, c'est peut-être un peu le cheminement que nous allons voir ensemble ce matin. Nous voyons en fait que l'amitié est nécessaire justement pour réparer, régénérer cette relation avec soi, avec l'autre et avec Dieu. L'amitié trouve une place importante dans les écrits bibliques du Nouveau ou de l'Ancien Testament. Et nous découvrons sous la plume de l'apôtre Jacques que Abraham était un ami de Dieu.
Comment c'est possible d'être l'ami de Dieu ?
Eh bien, je comprends que cette révélation puisse être tout à fait surprenante, être ami de Dieu. Effectivement, nous découvrons cette idée, comme je le citais tout à l'heure, sous la plume de Jacques. Mais nous comprenons ceci grâce à un autre passage où il est écrit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et ainsi il fut appelé ami de Dieu. Mais pour mieux comprendre ce mécanisme de l'amitié avec le divin, je vous propose que nous écoutions la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 12 à 15.
C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père.
Georges Michel, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. C'est puissant, c'est énorme, en fait. C'est tout là le fondement de cette amitié.
Alors, nous verrons un peu plus loin que, évidemment, ça prend sa source là-dedans. Mais que et ça ne se limite pas qu'à cela. Je voudrais pour l'instant que nous restions sur la dimension de l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu qui est en fait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette amitié d'Abraham avec Dieu est fondée sur cette relation spécifique qui existe entre l'un et l'autre, et particulièrement d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Relation spécifique, pourquoi ? Eh bien parce qu'il nous est dit que Abraham avait la foi. Avoir la foi, c'est faire confiance. C'est reconnaître que cet être suprême, ce Dieu suprême, est digne de relation avec moi et que dans le fond, en fait, il ne trahira pas cette relation. Et ce que nous découvrons dans les paroles de Jésus, c'est que c'est dans le même ressort, c'est le même ressort qui se met en mécanisme, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il va falloir que les disciples qui entendent ce passage que nous venons d'entendre ensemble, soient aussi des hommes de foi vis-à-vis de leur Seigneur.
Mais pour mieux comprendre cette amitié entre Dieu et Abraham, pourrait-on la définir déjà entre les hommes ? Nos amis ne sont pas nos copains. Et je voudrais qu'on redéfinisse cette notion d'amitié.
Alors, autant le dire tout de suite, l'amitié, c'est pas une bande de copains. En tout cas, ce n'est pas de cela dont nous parlons ce matin. Il s'agit d'une relation spéciale, unique, fondée sur la confiance, l'écoute, la gratuité, le respect, la capacité d'accueillir l'autre dans ses contradictions, ses doutes, ses manques, et évidemment la réciprocité. Disons-le, nous avons suffisamment de doigts sur une main pour compter les véritables amis. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. En Christ particulièrement, nous ne sommes ni jugés, ni repoussés, mais accueillis.
Mais cette amitié, est-ce qu'elle est équitable ou elle est déséquilibrée ? Est-ce qu'on est obligé d'être toujours parfait avec Dieu ? Est-ce que Dieu nous, finalement, va nous laisser une imperfection dans la relation de l'amitié ?
C'est en parlant des amitiés humaines que nous pouvons comprendre comment la relation d'amitié s'installe avec notre Seigneur et nous, et avec Dieu lui-même. Essayons de réfléchir ensemble sur comment reconnaît-on un ami. Eh bien, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est l'absence d'intérêt. Vous le savez, la société moderne donne souvent l'occasion de construire des amitiés fondées sur un principe contraire à celui de l'amitié, dans le fond, qui est celui de la recherche d'un intérêt. On mesure bien la limite de l'amitié dans le monde politique, dans le sport, auprès des célébrités, ou autour des gens de pouvoir ou d'influence. Il suffit d'un revers de fortune, une baisse de popularité, une défaite, et les amis s'envolent comme les hirondelles en hiver. Donc, premier critère, l'absence d'intérêt. La deuxième dimension, c'est qu'on reconnaît le vrai ami dans la détresse, dans les creux de notre vie, où le sol devient mouvant. Il faut de la force de caractère pour accompagner son ami jusqu'à la mort, si la mort l'y conduit. Et beaucoup fuient à ce moment-là. Je me rappelle le témoignage qui m'a marqué d'un homme qui avait perdu dramatiquement sa femme et ses enfants dans une situation horrible. Il ne lui restait que son fusil de chasse pour en finir avec la vie. Assis dans une maison vide, il ne lui manquait que le courage d'appuyer sur la détente. Arrive le petit matin, un ami qui avait voyagé toute la nuit d'outre-Atlantique est venu s'asseoir à côté de lui dans le couloir, là par terre, simplement. L'ami, le vrai. L'ami se mesure aussi dans la durée. Nos vrais amis s'inscrivent dans le temps, dans l'histoire, pas forcément dans l'omniprésence, l'envahissement. Mais quelle joie de se retrouver après des périodes de silence ou de distance.
Vous voulez dire que finalement, il y a cette expression qui dit « ça fait un an, deux ans qu'on ne s'est pas vu, mais on a l'impression qu'on se voit tous les jours ?»
C'est effectivement peut-être la marque d'une amitié sincère. Enfin, ce qui caractérise l'amitié, je crois, c'est l'absence de la crainte. Je peux me dire tel que je suis, je n'ai pas besoin de me mettre un masque pour sauver la face. Eh bien, avec ces points que je viens de citer, je crois que le caractère de Dieu et de notre Seigneur est justement dans cette caractéristique-là.
Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Georges Michel, pasteur de l'UAPM, l'Union d'Assemblées Protestantes en Mission. Georges Michel, vous ne me parlez que des bons côtés de l'amitié. Quels sont les écueils de cette amitié ?
Alors, on dit bien souvent que le meilleur ami, c'est le livre.
Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'on fait route avec lui et il... on partage des moments de vie très marquants. Il y a eu de nombreux livres sur l'amitié. Mais je me permettrai ce matin de citer le moine Ansel Grün dans sa magnifique méditation sur le mystère de l'amitié. Il dénombre quatre écueils qui concernent l'amitié. Et je me plais à en rajouter un cinquième. Très rapidement, le premier c'est l'ennui. La vie oscille comme un pendule de droite et de gauche entre la souffrance et l'ennui, nous dit Schopenhauer.
C'est-à-dire l'ennui d'une quotidienneté ?
L'ennui du quotidien, on se lasse de l'autre. L'ennui, rien n'est pire dans une relation. L'ennui, c'est le vide, c'est l'absence de vie dans le présent et dans le futur.
Comme dans un couple, en fait ?
Malheureusement, oui. C'est un vrai, véritable drame. Le deuxième, c'est l'activisme. Quand on est trop occupé, occupé par son action, son travail, son sport, ses engagements, ses passions, on a peu de place pour l'autre. C'est le syndrome de la chanson « J'aurais voulu être un artiste ». Il ne l'a pas été et il vit tout seul en haut de son Hilton toute sa vie. Et il en est de même dans notre relation avec Dieu.
C'est-à-dire ?
Eh bien, Dieu n'a pas de place. Parce qu'on n'a pas le temps, on a trop de travail, de responsabilités, pas le temps de la prière, de l'écoute, de la lecture, de la rencontre, de la quête du divin. Dans le fond, le Seigneur est si proche et nous sommes si loin. Soit dit en passant, c'est le plus grand des problèmes des religieux et des pasteurs.
Précisez, Georges.
Oui, tellement occupés par les affaires de leurs églises, mais coupés d'une amitié profonde et vécue avec celui qui les a choisis et envoyés. Quel drame !
Est-ce qu'on pourrait penser que c'est une sorte de trahison, finalement ?
Je crois que c'est malheureusement des personnes qui se sont enfermées dans un style de vie où le personnage est plus important que la personne.
Continuez avec les écueils de l'amitié.
Le troisième, c'est celui de l'inégalité. Quand l'un ou l'autre surenvahit la relation, l'espace de l'autre, par une amitié qui s'exprime à travers des cadeaux démesurés, à travers des comportements qui dominent.
On est étouffé ?
Elle pollue la relation, elle va l'étouffer, elle la rend stérile, et cette relation mourra. Il y a aussi la question des attentes. L'amitié doit se construire sans rien attendre l'autre. Rien n'est pire dans une relation que les projections, les reproches sur ce que l'on n'a pas dit, pas écrit ou pas fait.
Tu aurais dû.
Et c'est la mort d'une relation. Il y a aussi les changements. Heureusement que nos vies se renouvellent. Heureusement. C'est toute la force de la vie. Mais nos vies ne sont pas statiques. Et nous sommes en perpétuelle évolution, en principe. Mais parfois, les changements peuvent mettre fin à une amitié.
quel type de changement peut mettre fin à une amitié forte?
Je donnerai un exemple personnel. Veuf, je me suis marié à nouveau. Nombre de ceux que je croyais être mes meilleurs amis ont pris de la distance dans la relation, ne retrouvant plus ou pas les choses du passé. Et il y a même une forme de violence dans cette rupture et ça m'a fait mal. Mais c'est peut-être en fait dans le fond le problème de la relation entre Judas et Jésus.
Oui, c'est une, hélas, une belle trahison.
C'est d'abord la fin d'une amitié. Progressivement, la personnalité de Judas a glissé par ses égoïsmes, ses peurs, ses jalousies, au point justement, comme vous le disiez, d'aller jusqu'à la trahison fatale.
Mais est-ce qu'on peut pardonner une telle trahison ?
Olivier, je ne peux que citer cette parole que Jésus a prononcée sur la croix. Nous venons de fêter les fêtes de Pâques. Et lors de sa crucifixion, quelques instants avant sa mort, il a prononcé cette magnifique prière. « Père, pardonne-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. »
C'est Luc, chapitre 23, verset 34, c'est ça ?
C'est bien ça.
La frontière entre amitié et amour. Il y a plusieurs définitions. Il y a la définition des Grecs sur l'amitié. Est-ce que vous voulez nous...
Alors, effectivement, les Grecs utilisent, pour la question, pour définir l'amour, trois niveaux d'amour. Il y a d'abord Eros, qui nous parle de la passion. Ce mot, d'ailleurs, veut dire souffrance. Hein. Et très souvent, nos passions peuvent devenir des souffrances. Dans la passion, on ne pense pas objectivement. La passion nous aveugle, nous domine, notre cerveau sécrète une dose incroyable de dopamine et notre rythme cardiaque s'accélère. Aïe, attention aux dégâts. Le deuxième niveau, c'est philéa. Il s'agit de l'amour-amitié, justement. C'est un attachement à l'autre. Je souhaite son bien, ses malheurs et son bonheur me sont importants. Là, notre cerveau développe une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement. Les gens qui durent sont remplis d'ocytocine.
On est accro, un peu.
Je dirais pas ça, c'est plutôt la patience. Et puis, il y a l'amour agapé.
C'est quoi l'amour agapé ? On en entend parler, mais...
Voilà, mais très souvent, en fait, l'amour agapé, on dit, c'est l'amour de Dieu, l'amour du divin pour les hommes. Il n'y a que Dieu qui est capable d'amour agapé. Je ne le pense pas, personnellement. Bien au contraire. Il est ouvert aux relations humaines. Il s'agit d'un amour apuré de toute jalousie, de médiocrité ou de tout autre comportement qui tire la relation vers le bas. Mais dans le fond, Olivier, ces trois formes d'amour s'entrecroisent. Elles ne sont pas cloisonnées. Il n'y a pas de frontière entre l'une et l'autre. C'est une erreur de croire qu'on est dans l'une ou on est dans l'autre. La beauté du couple, par exemple, est bien d'osciller dans l'une ou l'autre de ces champs. Le couple se renouvelle, s'invente à nouveau, et encore sans se lasser, sans s'enfermer.
Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Georges Michel, pasteur de l'UAPM, l'Union d'Assemblées Protestantes en Mission. Nous vous parlons de l'amitié dans la Bible. Alors, Georges Michel, les amitiés dans la Bible, des exemples, en tout cas les exemples qui vous touchent le plus, un premier exemple d'une belle amitié.
Alors, je pourrais citer celle de Naomi et Ruth, cette jeune femme qui a tout perdu, son mari, son statut, bien des choses, et qui, dans le fond, devrait repartir vers sa famille. Et sa belle-mère lui dit « Rentre, rentre vers ta famille, rentre vers ton peuple, tu n'as plus rien à faire avec moi ». Et elle fait cette merveilleuse déclaration « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Il y a eu un attachement entre ces deux femmes remarquable.
Il y a une autre histoire d'amitié qui était parfois peut-être plus trouble entre David et Jonathan. Qu'en pensez-vous ?
Alors, l'amitié de David et Jonathan est une très belle amitié. Et le texte nous dit, suite à un événement, Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Mais dans le fond, l'amitié, c'est ça. C'est un attachement d'âme. Certains y voient une relation homosexuelle. Pour ma part, j'y vois la quintessence de l'amitié.
Georges Michel, je suis allé sur Internet. J'ai cherché votre nom dans ces réseaux sociaux. Ne pas le citer, mais je le cite, Facebook. Vous avez plus de 3500 amis, Georges. Comment pouvez-vous entretenir une amitié avec 3500 amis?
Ben, si vous avez bien épluché cette belle communauté qui m'entoure, 90% d'ailleurs est basée à Madagascar. Ce sont des Malgaches. Qui fait que, vous le voyez, c'est une amitié de grande distance, hein, puisqu'il y a 9000 kilomètres qui nous séparent. Quel mot curieux et trompeur pour la circonstance. Comment peut-on être ami de 3500 personnes? Une seule amitié demande tant d'attention et de délicatesse. Dans le fond, les réseaux sociaux, c'est l'anti-amitié, ou, au mieux, l'antichambre d'une amitié à construire et à développer hors des réseaux sociaux. Non, sérieusement, les réseaux sociaux, c'est bien souvent le règne du moi, de l'ego, de l'homme-dieu, comme le dit souvent le philosophe Vergilis, mais pas le meilleur endroit pour exprimer et tisser une amitié durable. On le disait tout à l'heure, l'amitié, c'est pas une bande de copains. C'est une relation d'intimité et qui est forcément limitée.
Je voudrais conclure ce service protestant, ce dialogue avec vous sur l'amitié, Georges Michel. Qu'en est-il avec Jésus, finalement? Et est-ce que ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres? Mais ça veut dire quoi, Georges Michel?
Alors ça, c'est le sujet essentiel. C'est le sujet d'abord essentiel de l'Évangile. C'est le sujet essentiel de ma propre vie. Et c'est le sujet essentiel du christianisme. C'est en devenant ami du Christ que ma vie a changé à l'âge de 20 ans. Et en fait, Jésus nous dit ceci, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Mais curieusement, il pose une condition, alors que j'avais dit tout à l'heure que l'amitié c'est sans condition.
C'est sans condition.
Et en fait, que dit-il? Nous passons du statut d'ouvrier et de serviteur de celui de sujet à ami, à condition que vous fassiez ce que je vous commande. S'il y a une condition, est-ce que c'est de l'amitié? C'est la question que nous nous posons. En comprenant cette phrase, ou en mal comprenant cette phrase, je crois que, encore une fois, nous nous trompons. Jésus ne nous demande pas d'avoir une vie exemplaire. Ne nous demande pas de jeûner plus, de nous priver de ceci ou cela, d'avoir des actes de bondieuserie, ne demande pas ça du tout. Il nous dit, et c'est ce que vous avez cité, je vous commande de vous aimer les uns les autres. Mais dans le fond, que dit-il? Tout simplement, apprenez à être, à vivre, à penser, à respirer un ami mutuel. Inventer la relation la plus belle qu'il soit avec l'autre. L'amitié. Alors là, je serai au cœur de vos vies et vous serez mes amis pour l'éternité.
Ainsi s'achève le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture. L'amitié, c'était le thème de la discussion avec Georges Michel, pasteur de l'UAPM, l'Union d'Assemblées Protestantes en Mission. Le pasteur Georges Michel est le secrétaire général de la FPF, la Fédération Protestante de France. Merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Sonia Leglen, à la prise de son Stéphane Desmonts. Lecture Cyril Sofac. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération Protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette discussion sur l'amitié avec Georges Michel, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr, protestant.org. Beau dimanche à tous et à chacun.